J'ai réussi totalement ce qui
s'est
auditeurs et auditrices, bonjour. C'est l'heure de votre émission 100% interactive, Parole aux auditeurs. Une émission de Radio Capi qui vous permet de prendre la parole et de donner votre point de vue sur des sujets qui nécessairement ne sont pas la une de l'actualité, mais qui vous intéressent. Ce lundi, Parole aux auditeurs s'intéresse à l'environnement. De plus en plus, des industries extractives et de transformation sont accusées de polluer l'environnement par le rejet de leurs déchets stockés dans l'air, les cours d'eau ou encore sur des terrains environnants. Des accusations qui sont rejetées par la plupart de ces entreprises qui souvent réclament des preuves de ces déclarations. Quelle est la situation dans votre milieu? Selon vous, que faut-il faire pour protéger l'environnement de ce genre de pollution? Pour en parler, nous avons invité M. Vénan Mabialé, les conseillers du ministre de l'Environnement en charge du développement propre. Et aussi, nous aurons René Ngongo, il est coordonnateur national Greenpeace, une organisation non gouvernementale de protection de l'environnement. Ce sujet vous intéresse? Vos avis, vos propositions sont attendues au cours de cette émission, que vous nous suivez à partir de la RDC ou à travers le monde. Thierry Lamézi, Alex Mbouyi, Clovis Lugula, sous la supervision de Ben Kabamba, sont à la réalisation de cette émission, sans oublier Eric Sidiakala, qui est à la mise en onde. Soyez les bienvenus.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Une toute petite modification pour aujourd'hui. Pour nous contacter, il faudrait nous appeler au 081-890-6315, le 081-890-6315 et non le 081-9977-800. Je reprends. Pour tous les auditeurs qui veulent intervenir à cette émission, vous pouvez nous contacter au 081-890-6315. Nous avons Eric en ligne ainsi que Steve qui sont tous les deux en ligne. Nous prenons d'abord Eric, notre premier auditeur. Nous appelle à partir de Kipushi. Bonjour Eric. Eric? On a perdu Eric. Bonjour Steve.
Bonjour madame.
Oui Steve, quelle est la situation dans votre milieu concernant ces industries extractives ou de transformation?
Ok madame, je crois que ce n'est pas la première fois que j'interviens dans cette émission, dans ce même sujet. Je crois que dans la première fois, j'avais prédit cette situation en rapport avec les sociétés extractives, notamment les sociétés qui fabriquent des alcools et autres là. Et ici précisément chez nous, à l'Équateur, je prends le cas, n'est-ce pas, de l'Abralima, qui est, n'est-ce pas, une société de formation d'alcool et autres là. Vous savez, avec cette société, c'est la même situation qui se passe dans d'autres sites, c'est-à-dire une forte pollution même des cours d'eau. Et ces cours d'eau sont consommés par la population, étant donné que la situation hydrique à travers toute la République n'est pas résolue, les cinq chantiers concernant l'eau n'est autre qu'une certaine fatalité, alors la population utilise cette eau comme ça, et cette population est exposée à de diverses maladies. Donc c'est ce qui se passe dans tout le territoire de notre territoire national, mais plus précisément ici en Bandaka, cette situation est criante. Il faut relancer cette SOS.
Mais si on voudrait savoir, est-ce qu'il y a des preuves, il y a eu des analyses qui prouvent qu'effectivement le fait que certaines entreprises soient en train de rejeter leurs déchets dans les cours d'eau, comme vous le dites à Bandaka, est vraiment nuisible à la santé?
Ah, mais les preuves sont nombreuses. Quand je prends l'exemple de ce qui s'était passé, n'est-ce pas, au Katanga, vous n'avez pas suivi une seule fois, n'est-ce pas, le parti écologiste de qui Monsieur Didas Pub en train de revendiquer certains dossiers en rapport avec la situation environnementale là. Donc ce sont des situations qui se font à travers le pays. Cette réglementation doit se baser sur un certain nombre de textes juridiques et réglementants et donner des sanctions à toute société isant dans ce sens-là.
Oui, et selon vous, quelles sont les propositions que vous voulez faire pour pouvoir protéger l'environnement?
Ok, pour les propositions, chez nous, en santé publique, on a fait la gestion des déchets. La gestion des déchets est une matière très délicate et une matière très importante. Donc, à cette société-là, qui travaille dans cette optique-là, il faudrait que la gestion de l'air des déchets soit une priorité pour que les conséquences ne soient pas contre les sociétés, ne soient pas qui vivent. Le problème qui est là, je demande à cette société-là d'intervenir d'une manière très sanitaire et de donner leur priorité dans la gestion des déchets, de peur que nous ne puissions pas arriver vers d'autres conséquences. Au gouvernement, de réglementer les textes juridiques à l'encontre de toute société allant dans le sens-là, ou qui puisse peut-être qu'il y aura à commettre une erreur dans ce sens-là, de le punir et de le châtier dans ce sens-là.
Donc vous ne pensez pas que aussi la population peut avoir un certain rôle à jouer?
Vous savez, la population de la RDC est à peu près non sensibilisée en cette matière. Vous savez, ce sont ces sociétés qui connaissent ces histoires-là par rapport à nous. La société n'a rien à voir, bien qu'il y ait une implication un peu indirecte, mais cette société est encore moins sensibilisée. Donc, il y a un problème entre le gouvernement et les sociétés qui fabriquent.
Merci beaucoup, Steve, pour votre intervention. Nous avons M. Zénon Mabiala qui sera notre invité au cours de cette émission. Il est conseiller du ministre en charge du développement propre. Bonjour, Monsieur Mabiala.
Bonjour, madame.
Oui, Monsieur Mabiala, vous avez suivi notre premier auditeur. Quelle est en fait la politique du gouvernement concernant ces accusations de pollution par les entreprises extractives de transformation?
Bien, madame, comme vous aurez eu à le remarquer, mon frère qui a parlé tout à l'heure a avancé un certain nombre d'éléments dont certains peuvent s'avérer vrais, d'autres faillent encore apporter des preuves. Mais il est vrai qu'en République démocratique du Congo, des efforts sont en train d'être faits pour réglementer l'environnement. Vous savez que depuis que ce ministère existe, le cadre légal n'a jamais été clair. C'est pourquoi au niveau du gouvernement, nous avons initié plusieurs projets de loi, notamment la loi cadre sur l'environnement, une loi cadre qui appelle aussi un certain nombre de lois subsidiaires, notamment le code de l'eau, puisqu'il a parlé de l'eau. Nous avons soumis des lois pour savoir comment est-ce que nous allons réglementer ces choses-là. On ne peut pas apporter des sanctions sans prévoir des textes. Ce sont des textes, lorsqu'ils sont prévus, les gens savent ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. À partir de ce moment-là, la sanction de la loi frappera quiconque qui la violerait. Donc nous avons plusieurs projets de loi qui sont soumis au niveau de l'Assemblée nationale. J'espère, puisque le ministre a longuement insisté auprès du président de l'Assemblée, j'espère que à la rentrée parlementaire, ces lois vont passer, vont être soumises aux députés pour le vote et aux sénateurs. Dès lors que ces lois seront promulguées par le chef de l'État, nous allons les mettre en pratique, nous allons les mettre en exécution.
Oui.
Voilà en gros la politique que nous avons au niveau de gouvernement.
Mais quand même, on peut un peu revenir, on peut placer le décor plutôt. Quand on parle de pollution, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de pollution de l'environnement?
Ben écoute, quand on parle de pollution, en termes simples, c'est émettre des éléments qui dérangent la nature. Ça veut dire des gaz à émission de effet de serre, par exemple, plusieurs gaz qui viennent parfois même des déchets, comme le méthane. Les gens ne savent peut-être pas que le déchet, même ménager, produit un gaz qui chauffe 23 fois l'atmosphère. Donc, c'est ça, justement, la pollution, c'est émettre des éléments qui dérangent le bon fonctionnement de la nature.
Nous allons prendre Eric, qu'on a pu recontacter, qui nous appelle de Kipushi. Ensuite, nous prendrons Damas de Lubumbashi.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Eric.
Bonjour.
Eric, quelle est la situation dans votre milieu?
dans notre milieu, la situation est telle qu'il y a une entreprise de la presse qui est installée dans un quartier résidentiel. Et ces sociétés, en fait, il y a d'abord la pollution de l'air. Et puis, ce qui est encore plus grave, c'est que cette société est installée juste à côté d'une maternité. On sait que dans une maternité, il y a des enfants, des nouveaux-nés. Alors, si l'air est pollué, c'est que ces enfants-là peuvent aussi être affectés d'une certaine manière. On n'a pas que les enfants, comme c'est la société située à proximité des maisons qui sont habitées par certaines personnes, c'est que ces personnes-là sont aussi exposées. À côté de ça, il y a encore des eaux de rejet qui passent dans les camps, j'ai camine et ces eaux-là, les enfants, on les voit jouer dans ces eaux-là, tout ça, ça fait que vraiment la pollution, on doit en parler, il faudra que l'on puisse trouver des moyens pour arriver à épargner la santé de la population.
Mais c'est un peu vague, que produit cette société, bien sûr, sans pouvoir citer le nom de la société, mais au moins qu'on sache de quelle pollution vous faites allusion.
En fait, c'est une société minière, hein, elle produit des minéraux. Alors, quand il y a des eaux dirigées, ben, il y a des canalisations, mais ces canalisations-là ne sont pas très bien protégées. C'est du fait qu'il y a des eaux qui coulent dans le camp Jécamine qui, généralement, d'abord, il y a les odeurs qui sont vraiment nauséabondes, et puis, on voit à longueur des journées des enfants jouer dans ces eaux-là, ce qui expose ces enfants-là à certaines maladies.
Donc, il y a certaines craintes hein, que vous êtes en train d'émettre. Mais selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait, par exemple, pour éviter que ces canalisation passe dans les quartiers résidentiels. Est-ce que vous avez des propositions?
En fait, il y a moyen d'utiliser des tuyaux juste à amener cette eau à un endroit qui serait très éloigné des maisons d'habitation. Là, c'est aussi une solution que les sociétés peuvent prendre pour épargner la population. Mm-hmm. Et en dehors de ça, moi, je pense que la responsabilité incombe beaucoup plus au gouvernement. Donc, le fait d'avoir accepté que l'on puisse installer une telle entreprise, une telle société, à côté des maisons d'habitation, à côté d'un hôpital, à côté d'une école. Donc, c'est déjà là le problème. Si on peut peut-être envisager à la longue de délocaliser l'entreprise ou soit de faire en sorte que l'on puisse construire de nouvelles habitations et amener la population qui est tout autour à pouvoir aller résider ailleurs. C'est à ce moment-là on pourra trouver une solution qui pourra satisfaire la population qui est en train de fuir un certain danger.
Mais quand même, Eric, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de preuves, disons, démontrant qu'effectivement, ces structures-là, plutôt ces matières-là, sont nuisibles à la santé. Mais c'est une crainte que vous émettez.
Oui, c'est une crainte. En fait, quand on voit une entreprise qui est installée comme ça, à côté des maisons d'habitation, à côté d'une maternité, donc on doit quand même s'inquiéter parce qu'en fait, il faut d'abord passer à côté de l'entreprise où on sent qu'il y a des odeurs qui ne sont pas très bonnes. Mm-hmm. Voilà, on se demande, on se pose des questions sur l'impact que ces odeurs-là peuvent avoir sur la population qui est autour.
Merci beaucoup, Eric, pour votre participation. Bonjour, Damas.
Damas. Bonjour, Chantal. Bonjour, Audio.
Oui, Damas, vous appelez de Lubumbashi. On vous écoute.
Ok, ici, chez nous, à Lubumbashi, Chantal, le constat est à même. C'est pour les entreprises minières qui font au pied toutes les résidences environnementales. Il y a parmi elles, celles dont les sites d'exploitation et les usines de traitement de minéraux sont à proximité des quartiers résidentiels. Alors, si vous vous rendez compte, elles sont à la base des pollutions sous multiples formes. Donc, nous savons que ces entreprises, certes, contribuent à soutenir l'économie nationale, mais ils doivent le faire dans le strict respect des conditions environnementales. Je connais ici chez nous, dans un quartier périphérique de Lubumbashi, à Louo aussi, un endroit qui, de 1990 jusqu'en 2004, il y avait beaucoup d'agriculteurs qui semaient leur maïs là-bas et obtenaient de très bonnes récoltes. Mais tous ces agriculteurs vont déserter les milliers parce que la culture ne donne plus. Même raison, donc, le secteur est tellement pollué que les plantes ne poussent plus convenablement. Alors, imaginez cette pollution souterraine qui empêche les plantes agricoles de pousser convenablement. Donc, elle a atteint des proportions que même la nappe atmosphérique est tapée, alors l'eau consommée par la population de ce quartier est déjà polluée. Donc, c'est un peu ça. C'est assez compliqué. J'en appelle à la responsabilité de l'autorité publique pour qu'il arrête les mesures qui s'utilisent sous le monde, surtout les mesures préventives. Je parle de mesures préventives, Chantal, parce que vous connaissez la réalité dans notre continent ici, l'Afrique. C'est rare que les entreprises n'aient qui polluent, prennent les responsabilités et indemnisent les populations victimes. Vous avez vécu avec nous le cas de Côte d'Ivoire avec les victimes de promotoires-là. Depuis aujourd'hui et depuis ce temps-là, tous ces gens ne sont pas indemnisés. Donc, les
Vous avez déjà commencé.
Et tu les mesures préventives qui sécurisent toute la population.
Merci beaucoup, Damas. Vous pensez que le gouvernement devait prendre ça à cœur, hein, surtout lorsque vous avez constaté que ces minerais attaquent même la nappe souterraine d'eau et c'est vraiment assez difficile pour la santé des populations. Merci beaucoup, Damas, de votre participation. Il y a Martin qui nous appelle de Kalanga. Bonjour, Martin.
Bonjour, ma chère Marie-Chantal.
Oui, Martin, quelle est la situation dans votre milieu?
Oui, dans notre milieu, nous pensons que l'environnement est pollué. Pollué tellement qu'il n'y a pas l'eau qui coule, les personnes ne sont pas bien entretenues, les villages dans le milieu ruraux sont des sites à ça. Ça ressemble à des villages vraiment abandonnés.
Oui, mais Martin, quand vous parlez de pollution, c'est pollué par quoi?
Pollué par la main, d'abord la malpropreté. La malpropreté. Vous voyez, ici par exemple, à Kananga, la ville, on laisse les déchets. Et ça se fait presque partout. Mais ça et là, il n'en fait rien. En milieu rural, les agents de la charge de l'environnement ne s'occupent que des perceptions des taxes sans prévenir. Arrivant à la population, on se tenait de l'environnement qui est pollué.
Merci beaucoup, Martin. Vous parlez plus des déchets hein, domestiques, aussi des immondices hein, qui polluent aussi l'environnement chez vous à Kananga. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons Madame Elali, membre du parti PECO. Bonjour, Madame.
Bonjour, Madame la journaliste.
Madame, on vous écoute à propos de ce sujet sur la pollution de l'environnement par des industries extractives et des transformations.
Eh bien, Madame, nous avions ici à Kinshasa la présence des industries de agroalimentaires et des industries chimiques et qui déversent leurs déchets tout droit dans le fleuve Congo. Et c'est déjà un type de pollution que nous vivons au niveau de nos eaux. Et au niveau du Parti écologiste congolais, nous avions déjà traduit en justice la Bralima ainsi que la parfumerie d'Andour. Et de la part de la société Bralima, les mesures ont été prises. Mais ce qui nous inquiète est que on ne peut pas être à la fois parti et donc juge et parti. Donc il faut qu'il y ait des mesures environnementales, donc une politique environnementale au niveau de notre gouvernement pour suivre ces usines qui sont en train de polluer notre milieu et notre pays. Voilà ce que je peux dire dans ces temps.
Madame, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain niveau, concernant cette pollution, la population n'est pas assez sensibilisée sur le sujet?
Bien sûr que oui, madame la journaliste. Il y a le principe de base de la gestion des dossiers qui doivent être mis en exergue. Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets en agissant sur la fabrication et la distribution de ces produits. Organiser les transports des déchets et les limiter en distance et en volume. Nous le voyons ici à travers la capitale. Il y a des déchets partout. Lorsque vous circulez dans nos marchés, les femmes vendent à même le sol. Ils placent leurs sacs au-dessus même de ces déchets. Et il y a des conséquences dans la santé publique. Au lieu de nous faire balancer chaque fois des spots publicitaires de boissons ou des danses, je crois qu'il doit y avoir des mesures pour prévenir notre population. Et je prends un exemple biblique qui nous dit qu'un peuple périt faute de connaissances. lorsque la population ne comprend pas l'impact de déchets, donc des conséquences des déchets dans le milieu environnemental que nous vivons, c'est un problème très sérieux. Donc l'État congolais doit prendre en charge une loi environnementale et il doit prendre aussi en charge la protection et on doit informer le public sur les effets pour l'environnement et la santé publique et des opérations de production et d'élimination des déchets ainsi que sur les mesures destinées en prévenir ou en compenser les effets préjudiciables. Mais
nous espérons, madame, que vous êtes déjà à pied d'œuvre, hein, sensibiliser la population.
Oui, je crois que dans la phase de la sensibilisation, je crois qu'à partir des ondes de Radio Okapi, qui est suivie à travers le monde, à travers toute la capitale, mais ce n'est pas toute la couche de la population qui est sensibilisée, qui écoute la Radio Okapi en ce moment. Je crois qu'il faut qu'il y ait des spots publicitaires. Au lieu de nous mettre des grands partenaires.
Non, en fait, madame, à votre niveau.
Donc, nous ne parvenons pas à atteindre la couche de la population.
Non, mais vous-même, qu'est-ce que vous faites, vous-même?
De périurbains de notre province, ville de Kinshasa.
Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites déjà sur le terrain?
Ah, merci madame de m'avoir posé cette question. Au niveau du PECO, qui est le Parti écologiste congolais, nous avions organisé une campagne de désachetisation au mois de juillet. Et cette campagne a été relayée par le gouvernement provincial de Kinshasa. Et dans un point de presse où j'avais suivi madame la ministre Thérèse Olenga, on nous a dit qu'on nous allait faire entendre qu'au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, les mesures adéquates ont été déjà prises pour que la population chinoise soit sensibilisée. Mais on ne peut pas se limiter à cela, madame. Il faut qu'il y ait des micro-baladaires dans nos marchés.
Nous pensons qu'en tant que parti politique,
ils peuvent prévenir les effets des déchets.
En tant que parti politique, vous allez vous investir dans cette sensibilisation. Merci beaucoup, madame Eulali. Vous êtes membre du parti PECO.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Mabiaya, vous êtes le conseiller du ministre en charge du développement propre. Vous avez suivi nos auditeurs. On voudrait un peu savoir comment est-ce qu'il est facile de reconnaître si des éléments qui sont, par exemple, rejetés dans l'atmosphère, dans des rivières, sont nuisibles. Comment est-ce qu'une personne peut reconnaître que ces éléments sont vraiment polluants et nuisibles à la santé?
Bien, écoutez, madame, c'est tout un exercice, hein, c'est tout un exercice. J'ai bien suivi de différents auditeurs. Je sais que au niveau du Katanga, qui est une province essentiellement industrielle minière, il y a des sérieux problèmes. J'y ai été personnellement pas plus d'une fois. Nous avons été dans plusieurs entreprises voir comment est-ce qu'ils traitaient des eaux usées. Le ministre de l'Environnement, M. José Ndungo, a même fait fermer certaines usines qui ne respectaient pas les normes, mais on dit aussi qu'il n'y a pas de peine sans loi. Ça veut dire que la loi est fondamentale pour que les exploitants puissent connaître exactement quels sont leurs droits et quels sont leurs droits. Donc des efforts, je tiens à rassurer à tous les auditeurs que le gouvernement a déjà initié plusieurs projets de loi au niveau du Parlement. Dès que ces lois-là vont être votées, il y aura un changement. Ça,
mais en attendant, par exemple, il y a un auditeur de Lubumbashi qui a dit qu'il y a une société minière en pleine zone résidentielle et que les déchets passent à travers même les parcelles des gens. Il y a même une maternité tout juste à côté. Mais en attendant ces lois, qu'est-ce qui peut être fait?
Je vais dire ceci, madame. L'auditeur de tout à l'heure a dit une chose, certes, mais maintenant il faut savoir qu'est-ce qui est arrivé avant. Est-ce que c'est l'usine qui est arrivée avant qu'on construise tout autour, ou c'est le contraire? Parce que je sais que c'est l'activité économique qui fait grandir l'agglomération. Donc j'imagine, si l'usine était là avant, et que les gens ont construit sans respect des normes de l'urbanisme, là aussi c'est un problème. Parce que maintes fois, les populations posent des actes et on renvoie la faute à l'autorité. Vous savez comment est-ce que nos villes se construisent? Vous avez été certainement à Kinshasa, vous avez été dans plusieurs villes, vous voyez qu'il y a une grande difficulté, les gens construisent là où il y a des érosions, ils aggravent, les gens coupent les arbres, etc., etc. Et tout ça, ce sont des problèmes qui sont très fondamentaux, nous faisons des efforts pour essayer de les contenir. Maintenant, pour la question que l'auditeur a relevée, en attendant, il y a la coordination provinciale au niveau du Katanga, qui fait un travail remarquable. Puisque j'y ai été, nous avons fait des missions d'inspection, mais la province n'est pas petite, la province est très grande. C'est comme un État, c'est plus grand que la France. C'est une grande province, il faut des moyens. Et nous sommes en train d'y parvenir progressivement. On ne peut pas éradiquer tous les mâles congolais d'un seul trait. Vous avez vu, avec le ministère de l'Environnement, où est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui et nous entendons aller plus loin que ça. C'est vrai que les populations ont des difficultés, c'est vrai que la question forestière a trouvé une partie de solution, c'est vrai qu'à Copenhague nous avons été et nous avons pu arracher ce que nous pouvons arracher. Donc nous irons encore plus loin que ça, que les gens nous aident et je suis content qu'il y ait des Congolais qui suivent de près. Dans la question environnementale, les gens qui s'intéressent, les gens qui peuvent dénoncer comme ils l'ont fait aujourd'hui, je crois que nous avons pris bonne note, nous allons instruire notre coordinateur provincial qui travaille de concert avec M. le gouverneur Moïse, donc nous allons suivre ces questions de près et je vois même comment est-ce que le gouverneur Moïse est souvent sur terrain pour demander aux exploitants miniers de toujours avoir soit un champ de maïs à côté pour l'intérêt des populations et le maïs en tant que plante accompagne la stabilité et l'équilibre des écosystèmes, ça donne naissance à la biodiversité. Donc je crois que l'autorité s'implique et est consciente de la question environnementale, mais le mal est tellement profond que ce n'est pas d'un seul trait que nous en sortirons, nous allons par palier et nous comptons aller vite.
Voilà. Mais nous revenons un peu, vous avez dit peut-être c'est la population qui est venue après l'entreprise ou c'est l'entreprise avant la population, après, mais quand même, l'être humain est au centre de tout développement. Est-ce qu'il peut arriver que vous puissiez sacrifier ces personnes pour le développement de l'entreprise?
J'ai dit simplement qu'une société fonctionne avec de la réglementation. Ça veut dire, lorsqu'il y a une usine extractive qui est construite dans un coin donné, je crois que pour construire les habitations alentour, il faut un certain respect des normes. Je ne suis pas un urbaniste, mais je sais qu'il faut des normes. Par exemple, je sais qu'on ne peut pas construire à côté d'un chemin de fer. Parce que la vibration, lorsque le train passe, crée des dégâts à la construction. Et qu'un mur peut tomber en plein milieu de nuit et écraser des gens qui dorment, paisiblement. Vous comprenez, madame? Donc, je crois qu'il faille encore mener des enquêtes pour voir si l'usine ne respecte pas des normes, elle sera sanctionnée. Mais si la population va là où se trouve une usine pour faire des érections d'immeubles, là aussi, il faudrait être juste, sinon à chaque fois, nous allons déplacer toutes les usines pour ne plus les avoir nulle part. Donc c'est assez sur cette question-là que je voulais insister, savoir qu'est-ce qui est arrivé avant, si la maternité peut être déplacée et que la société minière peut accompagner ce déplacement, parce que nous avons eu à le faire, il y a des compagnies minières au Katanga même, vu l'importance de l'exploitation, ont dû indemniser les populations, ont dû construire des villages un peu plus en détachement ou bien plus éloigné que l'usine en question. Donc ça, ce sont des questions qu'on peut soumettre à l'autorité. L'autorité va envoyer ses experts. Les experts vont voir sur terrain, vont faire asseoir l'usine et vont demander à l'usine, bon voilà, il y a tel dégât qui est en train de se faire. Il faudrait effectivement construire une autre maternité, une autre cité, pour que les populations puissent être délocalisées afin que vous puissiez travailler. Ça, ce sont des arrangements qui savent se faire et qui se sont déjà faits. Il y a des entreprises minières qui ont construit pays est cité, et vous le savez, aussi bien que moi. Donc, à ce stade-là, je ne vois pas où se trouve vraiment le problème. Il y a établissement d'un dégât environnemental, là, nous serons intransigeants, nous n'allons pas négocier quoi que ce soit. Nous enverrons les experts qui feront leur travail, et que le ministre aura le rapport, du conseil avec le gouvernement de la province, on pourra les mesures appropriées.
Voilà, maintenant. Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous suivez Radio Okapi dans son émission Parole aux auditeurs et ce lundi, votre émission 100% interactive s'intéresse à l'environnement. De plus en plus, les industries extractives et de transformation sont accusées de polluer l'environnement par le rejet de leurs déchets, soit dans l'air, dans les cours d'eau ou encore sur des terrains environnants. Des accusations qui sont souvent rejetées par la plupart de ces entreprises qui souvent réclament que des preuves soient montrées. Quelle est la situation dans votre milieu selon vous? Que faut-il faire pour protéger l'environnement de ce genre de pollution? Si vous voulez intervenir, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous contacter si vous êtes en RDC au 081-890-43-39, c'est le 081-890-63-15, je répète, le 081-890-63-15. Si vous êtes à l'étranger, vous avez qu'à ajouter le préfixe +243. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour madame.
Vous êtes de la société civile de Boma au Bas-Congo. On vous écoute concernant cette situation de pollution dans votre milieu.
Merci madame pour la question. Comme vous le savez, la province du Bas-Congo est la seule province du pays où l'exploitation pétrolière a commencé il y a plus de 4 décennies maintenant. Et aussi, l'activité pétrolière est par nature une activité polluante. Et que donc, quand on exploite le pétrole, la pollution est inévitable. Voilà ce que je peux dire. Donc.
Est-ce que vous avez des conséquences de cette pollution sur la population, sur l'environnement?
De plus en plus de voix se lèvent, que ce soit du côté des communautés locales, que ce soit du côté de la société civile, peut-être même du pouvoir, parce qu'il y a eu des ministres qui sont descendus sur le terrain pour constater certains dégâts causés à l'environnement. Donc je disais que des voix se lèvent pour dénoncer un peu la pollution qui se fait dans les milieux d'exploitation pétrolière. Mmh. Et que à ce niveau-là, nous pensons qu'il va falloir qu'on puisse mener des études pour évaluer les degrés de pollution des activités de l'industrie pétrolière. Mmh. Parce que les entreprises pétrolières, les plus souvent, récitent les accusations des communautés locales qui disent qu'il y a pollution et les entreprises pétrolières disent souvent où sont les preuves, il va falloir prouver tout ça. Bon,
oui.
C'est vrai qu'il faut prouver la pollution, c'est pourquoi nous, société civile, nous disons toujours qu'il va falloir mener des études pour évaluer les degrés de pollution des activités de l'industrie pétrolière.
Mais parce que
l'activité pétrolière est une activité polluante.
Oui, mais entre-temps, quelles sont les actions que vous menez en tant que société civile pour éviter ce genre de pollution? Qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour sensibiliser la population?
Oui, bon, la pollution, c'est d'abord les faits des entreprises qui exploitent. Donc, ce que nous faisons, c'est peut-être rappeler à l'ordre ces entreprises, leur dire qu'elles doivent respecter les normes qui régissent leur activité, et ensuite aux communautés locales dire qu'elles n'ont pas, par exemple, à exercer des actions qui puissent porter atteinte aux installations qui sont dans les zones d'exploitation pétrolière. Parce que la pollution peut provenir soit des entreprises du fait qu'elles sont en train d'exploiter, soit des actes que les communautés peuvent poser et qui peuvent faire vieille pollution. sur, par exemple, des actes posés sur les installations pétrolières. Mais nous savons que l'activité pétrolière pollue toujours et que donc les entreprises doivent adopter un comportement qui permette à ce qu'il y ait moins de pollution, puisque la pollution zéro n'existe pas. Mais nous pensons que les entreprises, en adoptant un comportement responsable, elles peuvent en sorte qu'il y ait moins de pollution.
Merci beaucoup Jean-Marie pour votre intervention. Vous nous appelez de Beaumas, c'est dans la province du Bas-Congo. Bonjour Narcisse. Narcisse?
Oui, bonjour.
Narcisse, Narcisse, on vous écoute.
Narcisse, oui, oui, Marie-Chantal.
Oui, s'il vous plaît Narcisse, est-ce que vous pouvez d'abord vous éloigner de votre poste récepteur parce qu'on a un retour à l'antenne qui est totalement désagréable. On vous suit Narcisse.
Pardon. Oui.
Narcisse?
Oui, je vous suis.
Oui, en tout cas, Narcisse, encore une fois, est-ce que c'est possible que vous puissiez suivre l'émission à partir de votre téléphone portable et non à travers votre poste récepteur? Parce que c'est désagréable, le son de retour.
Oui, je viens d'entendre ma radio.
Oui, on vous écoute, Narcisse. Vous appelez à partir de Kindi.
Oui, à Kindi. Ok, moi je vais réagir de cette manière. Ici, chez nous, à Kindi, comme vous le savez, c'est l'une des provinces la plus pauvre au monde. On ne peut pas parler des industries. Bon, on ne peut pas aussi parler de l'environnement sans toutefois parler de l'espace. Ce qui pollue ici à Kindi, ce sont des services de l'État. Par exemple, le cadastre.
En tout cas, Narcisse, le son, la qualité de son n'est pas totalement bonne. On n'arrive même pas à vous suivre correctement ce que vous voulez nous dire. On va essayer peut-être de pouvoir vous recontacter plus tard. Mais il y a déjà Léonard qui est en ligne, nous appelle à partir de Kinshasa. Bonjour Léonard. Léonard? Léonard aussi, on a un problème de ligne. Nous revenons à notre invité, M. Venant Mabiaya. Vous êtes conseiller du ministre en charge du développement propre. Est-ce que, monsieur le conseiller du ministre, est-ce que jusqu'à présent, est-ce que c'est applicable le principe de pollueur-payeur?
Bien, le principe, il est d'application parce que... Au niveau, j'aimerais d'abord répondre à la question de mon frère qui a fait de Boma sur les entreprises pétrolières. En ce qui concerne les entreprises pétrolières, il y a une entreprise qui a été inspectée récemment. Et il y a, au niveau de cette entreprise, des efforts qui sont en train d'être émis pour réduire justement la pollution, parce que l'air devient assez nauséabond, la respiration devient un peu infernale, mais ils sont en train de faire des efforts. J'ai appris que le sénateur du Bas-Congo, Jean-Marie Molato, qui avait fait le déplacement, qui est venu nous rendre visite au ministère, nous avons été là-bas, le ministre a été là-bas, les inspecteurs sont allés là-bas. Mais l'extraction du pétrole aujourd'hui au niveau de Moanda réduit déjà de 23 fois les émissions. Ça veut dire ils ont mis en place un mécanisme. Lorsqu'ils extraient le pétrole, il y a un mélange d'huile, d'eau et de pétrole qui font par système de séparation. Ils brûlent par gaz pour chair, ils récupèrent le gaz polluant, ils le rendent flou au sol pour mieux pomper le pétrole. Et cela réduit en grande partie la pollution. Donc c'est déjà des étapes comme ça qui sont en train d'être menées. Peut-être que la population directement ne sait pas le ressentir, mais en tant que ministère technique, ce sont déjà des efforts non négligeables que nous avons déjà pu réaliser aux côtés de ces entreprises-là. Maintenant, pour revenir à la question de pollueur-payeur, je vous ai dit, madame, qu'il y a des lois qui sont initiées au niveau de l'Assemblée qui vont de manière, alors là, définitive, réduire le problème, la question de compétences, la question des douches, la question... Il y a des lois qui sont très claires, qui vont réduire, qui vont élaguer ce problème-là. Actuellement, les coordinations provinciales, lorsqu'il y a pollution, ils descendent sur le lieu, il y a des taxes de pollution qui sont payées. Il y a des taxes de pollution qui sont payées. Donc ça, je peux vous rassurer, mais ce n'est pas l'argent payé qui réduit ou qui supprime le problème de la pollution. Il faudrait plutôt qu'on puisse analyser ça différemment par des mécanismes propres. Ce que je suis en train de dire, je suis conseil du ministre pour un développement propre, c'est un des mécanismes du protocole de Kyoto qui veut qu'il y ait, qu'on incite des investissements sur des usines et des technologies moins polluantes. C'est ça les efforts que nous sommes en train de faire.
Oui, mais monsieur le conseiller, par exemple au village de Lucala, vraiment, en passant par là, tout est gris, on croirait que le ciment est partout, sur les feuilles, dans les maisons et tout ça. Est-ce que c'est pas aussi une sorte de pollution?
Oui, oui, madame, effectivement, au niveau de Lucala, je suis passé par là récemment, j'ai accompagné le ministre à Matadi pour la visite du barrage Binga avec des partenaires au développement. Au niveau de Lucala, effectivement, lorsqu'on arrive, on sent déjà qu'on est à côté d'une cimenterie, parce que la cimenterie, lorsqu'il y a traitement, on ne peut pas avoir une usine dont la technologie remonte aux années 70, une vieille technologie, à l'époque où la communauté internationale n'avait pas effectivement pris conscience des enjeux sur l'environnement, parce que ça a commencé avec la convention cadre dans les années 90, donc notamment en 1992. C'est à partir de ce moment-là que la prise de conscience internationale s'est manifestée. Avec des vieilles technologies comme celles utilisées à Lucala, effectivement, nous devons souffrir un tout petit peu le temps pour nous de pouvoir apporter des technologies non polluantes.
Oui.
Ce n'est pas du jour au lendemain. Entre-temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons la réduction, nous insistons sur la réduction des émissions, nous insistons sur la réduction, de réduire au maximum la pollution de l'air, la bonne gestion des eaux usées, leur traitement. Ce sont des efforts que nous essayons de l'allier par un dialogue ouvert entre l'entreprise et l'autorité.
Mais quand même, nous savons bien que ces genres de pollution, hein, on constate qu'après plusieurs années sur la santé des populations, c'est pas immédiat, mais en prévision, parce que déjà, ça fait un bon bout de temps que ces populations respirent le ciment.
Oui, madame, je ne peux que revenir sur les efforts que le gouvernement est en train de faire. Ou alors, c'est deux choses l'une, soit on ferme l'usine. Mais vous avez vu la difficulté qu'a connue le pays lorsque la cimenterie de Lucala était fermée. Je crois qu'on doit essayer de faire la part des choses. C'est comme ça, par exemple, en Europe, il y a des pays industrialisés qui ont, par rapport au protocole de Kyoto, l'obligation de réduire leurs émissions de 5,3% par rapport à leur situation de 1990. Ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ne peuvent pas fermer les usines, ils ont eu droit à des mécanismes qu'on appelle des mécanismes de flexibilité. Donc, ils financent des projets.
Oui.
De construction des usines propres pour réduire les...
Est-ce que vous n'avez pas aussi pensé à une certaine délocalisation, peut-être, de ces habitants?
Madame, déplacer un village n'est pas une mince affaire. Surtout, on parle de villages où les gens ont des droits de terre, où les gens ont une certaine conception du milieu. Il n'est pas facile, ce sont des études et c'est beaucoup d'argent. Vous connaissez de quel ordre est notre budget, il est autour de 6 milliards de dollars. Engager un plan de délocalisation sur toute l'étendue du territoire ne sera pas une mince affaire. Nous risquons de ne pas payer les professeurs, nous risquons de ne pas... Bref, on risque de ne pas sortir du bourbier. C'est pourquoi nous allons par palier, ça va prendre un certain temps.
Et aussi par priorité. Monsieur le conseiller, on vous garde en ligne, nous poursuivons cette émission.
D'accord.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Léonard.
Oui, bonjour, madame.
Bon, on a pu vous recontacter, on sent que la ligne est meilleure. Vous nous appelez à partir de Kinshasa. Léonard, on vous écoute.
Oui, madame, je vais vous remercier aussi. C'est ma voix, parce qu'il y avait un peu de coupure.
Mm-hmm.
Je crois, avant d'aller très loin, salut de vos émissions, quand vous aviez invité les conseillers de BJU, j'avais invoqué les cas de responsabilité. La responsabilité, si vous suivez même les conseils, ça présente avec vous. Il y a toujours le même point que j'avais de l'ON, des fois qui vont encore être répétés aujourd'hui. Quand je me réveille un peu dans tout ce qu'il venait de dire, il a dit qu'il y a des projets, il y a des projets de loi qui sont en cours, qui vont être soumis au Parlement. Oui, je suis d'avis, d'accord aussi avec lui, mais le problème est celui-ci. Le ministère de l'Environnement n'existe pas seulement avec la transition, ou soit après les élections, pour qu'on puisse hériter ou pour qu'on puisse établir des projets en projet. C'est un ministère qui existait depuis très longtemps. Mais comment se fait-il qu'on va gérer un ministère sans pour autant orienter d'abord les canons, les lois, a priori, qui doivent orienter les ministres dans ses compétences. Mais les conseillers nous disent encore qu'il faut attendre des lois, il faut attendre des projets. Moi, je ne suis pas d'accord quand même sur ces points de vue. Pour aller encore loin,
okay.
Il n'y a pas que la pollution des industries, ou peut-être des usines, d'ailleurs, Congo n'a pas d'usine, n'a pas d'industrie. Quelle est la pollution qu'on va nous chanter? Sauf qu'on cherche à cacher la vérité, pour se pencher à ce que la communauté internationale crie.
Non, si vous voulez, Léonard, quelles sont les propositions concrètes que vous faites?
Non, les propositions concrètes, avant que je n'y arrive, je voudrais d'abord répéter certains points qui touchent ma conscience.
Non, mais allez-y aux propositions, parce que nous sommes déjà vers la fin de l'émission, il y a d'autres auditeurs aussi qui attendent.
Oui, madame,
je vais me plutôt constructive, quoi.
Le cas de l'appareil pour vous. Actuellement, Wemba Jean-Claude, le député de Gatamboulou, a dénoncé un cas, mais le ministère, comment gérer cette situation? Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Il y a aussi le cas de la pollution de Kinshasa. Ce ne sont pas seulement des bras Congo et des bras Lima. L'environnement n'est absolument rien. Qu'est-ce que le ministre est en train de faire si ce n'est qu'un tirer des bonobos? Je crois, tout ce cas-là, le ministre.
S'il vous plaît, quand même un peu de courtoisie. Hein. C'est une émission d'échange. On échange un peu les réflexions que vous avez sur telle ou telle situation.
Oui, oui, oui.
On n'est pas là pour se tirer à boulet rouge, hein?
Non, j'ose un peu être...
Oui, vos propositions, Léonard?
Oui, les propositions, je crois peut-être tout est débat. Le ministre doit connaître quand même ses compétences. C'est ce que moi je dis toujours, que chacun de nos dirigeants arrive à découvrir quel est son rôle qu'il doit jouer vis-à-vis de la nation. Je crois que ça, c'est lui, c'est ça, madame.
Mais merci beaucoup, Léonard, pour vous. Vous pensez que chacun a ses responsabilités et vous souhaitez que les autorités puissent trouver des solutions à toutes ces situations-là. Bonjour, Yves.
De quoi elles sont capables.
Bonjour, Yves.
Bonjour.
Yves, on vous écoute, je vous appelle à partir de Kinshasa.
Oui, madame, ma question porte essentiellement sur la pollution des véhicules d'occasion qui est contre la République démocratique du Congo. Et j'aimerais poser une question à monsieur le conseiller du ministre. Est-ce qu'il y a-t-il un projet de loi déposé au Parlement à ce jour en ce qui concerne l'interdiction des véhicules dépassant plus de 10 ans? Est-ce que le ministère de l'Environnement a pris des mesures ou a pris langue avec le ministère des Transports et l'Office congolais de contrôle pour interdire des véhicules dépassant plus de 10 ans d'entrée en République démocratique du Congo?
Mm-hmm.
Parce qu'il n'y a pas que des industries ici à Kinshasa qui polluent la ville de Kinshasa ou la République, c'est aussi un fléau qui... Pourquoi on doit vraiment éradiquer les véhicules d'occasion qui entrent en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup.
C'est précieux, nous voyons que les véhicules là sont soumis à un contrôle. Mais est-ce que pour notre pays, y a-t-il un projet de loi déposé à ce jour au Parlement?
Et merci beaucoup, Yves. Vous avez une question, nous allons la poser directement au conseiller du ministre, même si ce n'est pas vraiment dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui. Nous parlons de la pollution par des industries extractives et de transformation. Mais comme le conseil du ministre est là, il pourra donner une réponse à votre préoccupation. Monsieur Mabiela, on vous écoute.
Oui, merci madame de me redonner la parole, mais j'aimerais d'abord dire à monsieur Léonard qui a manqué peut-être de courtoisie en ce nom de ce coup un peu dépassé. Effectivement, vous aviez dit, nous sommes ici dans un cadre d'échange, donc la population doit venir en aide à l'autorité pour que sur des questions où l'autre, qui échappe à l'autorité, la population qui est vigilante puisse tirer la sonnette d'alarme, c'est un travail complémentaire. Donc, pour revenir au niveau des compétences, le ministre de l'Environnement connaît ses compétences. La preuve, vous avez vu tout ce qu'il a pu réaliser en un temps record. En ce qui concerne la pollution au niveau des villes, la loi remet cette compétence au gouvernement provincial, au gouverneur de la ville. Donc il faudrait qu'on fasse la part des choses sur cette question-là. Mais maintenant, revenons à la question de M. Yves. M. Yves a posé une question qui est d'ailleurs d'actualité au niveau du ministère. Il y a des échanges interministériels, notamment entre le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce extérieur, l'OCC, qui nous ont d'ailleurs accompagnés à Copenhague, pour qu'ils puissent s'imprégner du développement de l'arsenal juridique en termes de contrôle à l'embarquement ou à la destination. Donc très prochainement, il y aura sur pied une commission interministérielle entre le transport, l'environnement et le commerce pour voir comment est-ce que nous allons commencer à contrôler tout produit polluant embarqué à partir de l'étranger, leur acheminement ici et des conditions d'entrée au niveau de Kinshasa. Donc sur cette question-là, je peux rassurer M. Yves que c'est déjà à pied d'œuvre, c'est une matière nouvelle et nous sommes en train d'y aller progressivement.
Monsieur le conseiller, on vous garde en ligne. Hein. Nous avons l'honorable Jean-Claude Mbouemba qui est qui est en ligne et pourra aussi donner son avis concernant ce sujet.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Wemba.
Bonjour, madame.
On vous écoute concernant ce sujet sur la pollution de l'environnement des industries extractives et de transformation, surtout des propositions, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission.
Alors, madame, vous savez, le sujet est tellement ardu, tellement précieux, comme j'ai l'habitude de le dire. Dans 50 ans, hein, nous ne serons pas là pour répondre à cette population qui n'aura que deux yeux pour pleurer et la mort comme échéance. Il y a l'article 154 de notre Constitution, hein, qui dit quoi, hein? Tout d'abord, il faudrait que le conseiller du ministre, qui est M. Mabiala, hein, qui commence tout d'abord par éclairer la population. Madame, il y a deux cas que je citerai avant de vous dire que, à l'heure actuelle, à l'Assemblée nationale, le président Ingeli, le président de la commission environnementale, ont déjà terminé pratiquement tout la loi. Il ne reste qu'à être programmé à l'Assemblée nationale pour voter et puis peut-être pour aller au Sénat. Il y a 7 mois, il y a eu 2 tonneaux de déchets toxiques qu'on est venu déposer, enterrer, enfouir à Kinseki dans le secteur de Luila, dans le territoire de Kassangoulou. La commission environnementale était avec moi ainsi que la commission avec le vice-ministre de l'Intérieur. Juste à ce jour, personne n'est rentré pour aller déterrer ces déchets. En plus, en parlant de la pollution pétrolière, soyons sérieux, vous n'avez qu'à descendre à Moanda. Vous voyez comment le ciel de Moanda est. Hein? Vous voyez même au niveau même du mangrove, comment les déchets toxiques sont en train de détruire notre sol. Alors, c'est pour cela que nous disons, il dit qu'à chaque fois, il y a les agents du ministère de l'Environnement qui vont sur place. Avec quel instrument? Avec quel matériel? Madame, le problème est que c'est dommage que vous me donnez 2 minutes. Je ne peux que dire ceci. Le Congolais doit être vigilant par rapport à sa pollution. Tout simplement parce que nos autorités ne nous protègent pas. Parce que ici, c'est le sénateur Jean-Marie Molato. Quand les élus de Moanda vont pour aller faire une table ronde, ils sont dans les avions de Périco. Quand ces collaborateurs qui sont à Boma doivent aller à Moanda, ils y vont dans les véhicules de Périco. Quelle objectivité de leur travail. C'est pour cela que nous disons ceci. Pour les 5 chantiers, nous sommes bien partis chercher les Chinois. Alors, mais pourquoi nous n'irons pas chercher une grande maison d'audit internationale, madame, pour qu'ils descendent à Moanda, pour qu'ils se rendent compte du dégât de la pollution, que ce soit de l'air, que ce soit sous-sol. Parce qu'à l'heure actuelle, madame, il y a eu il y a eu destruction de plusieurs milliers de poissons.
Mais la société Pélérot a attendu quelques jours pour répondre à l'honorable Bemba.
Oui,
alors que le temps a fait ce qu'il avait fait. C'est pour cela que je dis au conseiller du ministre de l'Environnement qu'ils fassent très bien leur travail. Ils n'ont aucun matériel pour détecter ou pour faire quoi que ce soit pour arrêter la pollution à la population congolaise. Oui. Ils n'attendent pas la loi.
Mais
pollueur, payeur. C'est connu.
Merci beaucoup, honorable Jean-Claude Bemba. Vous pensez qu'il faudrait une expertise internationale pour pouvoir prouver s'il y a pollution ou pas. Nous sommes déjà à la fin de notre émission, monsieur Zénan Mabiala, pour conclure.
Bien, j'ai suivi avec plaisir l'honorable Bemba que j'aime bien, qui est élu de ma province, que j'aime bien par sa clairvoyance. Il est vrai que l'Assemblée nationale doit tirer les sonnettes d'alarme pour accompagner l'action gouvernementale et faire bien son travail. Mais qu'est-ce que je veux dire ici? Vous savez qu'au niveau du ministère de l'Environnement, et ça j'ai omis de le dire au départ, il n'y a que 1% d'universitaires. Et aujourd'hui, le ministre a engagé un plan de monter ce ratio à plus de 10% en termes de renforcement de capacités. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons négocié plusieurs fonds pour ce faire, pour renforcer les capacités, pour acquérir des matériaux ou un matériel adéquat qui permettrait de bien faire le travail. Mais ça aussi, c'est une piste de solution, ce que l'honorable Nzonga vient d'avancer. C'est une piste de solution pour voir au niveau de la coopération internationale s'il faille pour des questions spécifiques où le Congo atteint des limites, si on peut faire appel à une main plus qualifiée de l'extérieur. Ce sont des pistes de solutions, mais qu'on n'aille pas dans le sens de se rentrer dedans, de se dire incompétent ou non compétent. Je crois que nous connaissons notre pays, nous connaissons nos limites, nous savons jusqu'où nous pouvons aller. Quand nous avons nos limites, nous allons faire appel à des gens qui peuvent nous aider sur ces questions-là.
Oui.
Moi, je suis plutôt ravi de cet échange parce que ça a permis aux uns et aux autres de connaître ceux qui ne connaissaient pas avant, de savoir ce qui est en train de se faire. Mais j'insiste que la loi est fondamentale, parce qu'il n'y a pas de peine sans loi. La loi est fondamentale. Il y a quelqu'un qui a posé tout à l'heure la question de savoir comment est-ce que le ministère de l'Environnement a fonctionné sans loi cadre. Eh bien, à chaque époque, il y a des choses qui se
trouvent. Oui, monsieur Mabiala, nous sommes à la fin de notre émission.
Merci
beaucoup pour votre participation. Nous disons aussi merci aux auditeurs pour leurs interventions. Le prochain rendez-vous avec Parole aux auditeurs, c'est demain, et l'émission sera centrée sur le nouveau remaniement du gouvernement Mouzito. Quelle analyse faites-vous de cette nouvelle restructuration? Réalisez dès à présent en écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net et restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ces programmes.